Il y a un prédicateur célèbre aux États-Unis. Son nom, c'est Tony Campolo. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce nom, un ou deux, peut-être. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas pasteur ou missionnaire, c'est un docteur en sociologie chrétien. Mais il a toujours des témoignages sur la réalité de Dieu qui sont formidables. Et je l'avais vu, pas directement, je l'ai vu à d'autres occasions, mais je l'avais vu sur YouTube, c'est disponible en ligne. Et si vous recherchez Campolo, anniversaire, prostituée, vous trouverez plusieurs articles sur lui, plusieurs, et vous le verrez expliquer son histoire. Je la résume brièvement. Il était en conférence à Hawaï. C'est un gars de Chicago qui a l'accent des Américains de l'Est, de New York. Et il raconte qu'avec le décalage horaire, il n'arrivait pas à dormir. Et il s'était réveillé à 3h30 du matin, mais à 3h30 du matin, il n'y a pas grand-chose à faire. Il avait faim, donc il a décidé de sortir et de voir s'il pouvait trouver un endroit où manger quelque chose. Et il a trouvé une petite gargote, un petit bar. Il est rentré et le gars lui a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il a dit « Je prendrai un café et un donut, un beignet. » Le gars est allé lui servir son café, et puis il était assez mal rasé, pas très propre, il s'est essuyé les mains sur son t-shirt, et puis il a pris un donut et lui a donné le donut. Et le gars a commencé à boire son café en priant qu'il n'allait pas attraper une maladie avec le donut. Et puis, à 3h30, un peu plus tard, il y a tout un groupe de jeunes femmes qui sont rentrées dans l'établissement, la petite gargote. Et en fait, c'était des prostituées. Il y avait 8 ou 9 prostituées qui avaient terminé leur travail et qui venaient prendre, elles aussi, un café et des donuts ou quelque chose d'autre. Et il était assis au milieu, et il n'y avait qu'un comptoir et des tabourets devant. Il s'est retrouvé entouré par 4 d'un côté, 4 de l'autre. Il se faisait tout petit, il disait « Qu'est-ce que je fais ici ?» Puis il a entendu parler une des prostituées qui disait « Hé, demain c'est mon anniversaire !» Et l'autre qui lui répond « Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse ? Tu veux peut-être qu'on te fasse un gâteau et qu'on te chante « Joyeux anniversaire ?» Et la pauvre fille a dit « Oh, mais vous n'êtes pas sympa, je vous disais ça comme ça, j'étais contente. » Et elles ont continué, puis elles sont parties. Et ce gars, un chrétien donc, a dit au tenancier « Est-ce qu'on pourrait pas, demain, c'est l'anniversaire de cette fille ?» Il a dit « Ah oui, Agnès, oui !» Est-ce qu'on ne pourrait pas lui souhaiter son anniversaire ? Moi, j'achète le gâteau, et le gars lui a dit « Ah non, les gâteaux, c'est ma spécialité. » Il a fait un peu... C'est ma spécialité. Il a dit « Bon, alors je m'occupe du décor. » Et le lendemain, à la même heure, à 3h30 du matin, il était toujours en décalage horaire, il est venu décorer l'endroit, et les filles sont arrivées. Et la patronne, la femme du tenancier, avait averti d'autres personnes. Il y avait toutes les prostituées de Hawaï étaient réunies là. Et quand Agnès, c'était le nom de cette fille, est arrivée, ils ont commencé à chanter « Joyeux anniversaire ». Elle était complètement bouleversée. On lui avait jamais souhaité son anniversaire. Et on lui a dit « Bon, mais maintenant tu coupes le gâteau ». Elle a dit « Oh, est-ce que je pourrais le garder un peu ? J'habite pas loin, je veux aller le montrer à ma mère. » Donc ils ont dit « Oui, tu peux aller l'emmener à ta maman. » Puis là, il y avait un drôle de silence, un peu bizarre. Personne ne savait que dire. Donc le gars, Il est monté sur une chaise et puis il leur a parlé de l'amour de Dieu. Il leur a dit que, quel que soit notre état, Dieu veut nous toucher, Dieu veut nous sauver. Il a dit, on va prier pour Agnès. Ils ont prié pour elle. Il a prié pour elle et les autres le regardaient d'un air bizarre. Il a demandé que Dieu la touche, qu'elle puisse sortir de sa condition, qu'elle puisse connaître la vie que Dieu avait pour elle, etc. Et puis, après qu'il ait prié, la fille est revenue, ils ont mangé le gâteau, mais le gars, après, le tenancier, il a dit, « Hé, Campolo, tu ne m'avais pas dit que tu étais un prédicateur. Tu m'avais dit que tu étais un sociologue. Tu viens de quelle église ?» Et le gars lui dit, « Je viens d'une église où on célèbre l'anniversaire d'une prostituée à 3h30 du matin. » Et le gars a dit, « Mais ça n'existe pas une église pareille. » Il a dit, « Si. » Et parce que si une église comme ça existait, je veux en faire partie. Alors pourquoi j'ai parlé de ça? Il n'y a pas d'anniversaire, il y a des anniversaires qu'on fêtera aujourd'hui. Mais aller à 3h30 du matin célébrer l'anniversaire d'une prostituée à qui on n'a jamais souhaité un anniversaire, ça nous rappelle qu'en fait, il y a une prostituée dans la lignée de Jésus-Christ. Rahab, on va parler d'elle. Aujourd'hui, on va lire. Elle était d'une ville bien connue dans la Bible pour l'école du dimanche qui s'appelle la ville de Jéricho. Et on va lire à partir du verset 30, du chapitre 11. Hébreux 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait, en effet, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, ils ont mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Amen. On s'arrête ici. C'est par la foi, c'est le leitmotiv de ce chapitre 11, le grand chapitre de la foi de la lettre aux Hébreux, qui nous rappelle que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a dit que la foi, c'est un peu les lunettes, des lunettes spirituelles qui nous permettent de voir ce qui est. Ce n'est pas qu'on imagine, qu'on fabrique, qu'on essaye de manufacturer quelque chose qui n'est pas. Non, c'est quelque chose qui nous permet de voir des choses réelles, des choses spirituelles. C'est aussi, il nous est dit, un peu plus bas dans l'Évangile, sans la foi, dans l'Évangile, dans la lettre aux Hébreux, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » On a dit qu'en écrivant cette lettre, l'auteur avait trois types d'audience, pardon, de personnes à qui il pouvait s'adresser. Il y avait des chrétiens hébreux, donc des anciens juifs qui étaient devenus chrétiens et qui étaient encouragés par cette lettre, par ces exemples. Mais il y avait aussi des hébreux qui n'étaient pas vraiment convaincus, qui étaient intéressés, mais qui n'étaient pas encore engagés, qui n'avaient pas, par la foi, accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Et puis, il y avait des non-chrétiens, des hébreux non-chrétiens non convaincus, des païens hébreux, en quelque sorte. Ils avaient leur foi de leurs ancêtres, mais ils n'étaient pas venus encore à Christ. Et aujourd'hui, on a sans doute dans notre groupe des gens qui sont engagés, d'autres qui sont intéressés, mais pas vraiment engagés, et puis d'autres qui sont peut-être arrivés là par hasard, invité par quelqu'un, mais ce message s'applique à tous, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il y a des païens qui essayent de plaire à Dieu en faisant des bonnes œuvres. Sans la foi, ils ne peuvent pas lui plaire. Il est important qu'ils le sachent et qu'ils ne mettent pas leur espoir dans les versements de chèques réguliers qu'ils font au Téléthon ou dans d'autres choses. Ce ne sont pas de mauvaises choses en elles, mais ce n'est pas ça qui va vous amener à Dieu, ce n'est pas ça qui va vous amener une éternité en la présence de Dieu. Le pardon de vos péchés, ce n'est pas ça. C'est par la foi qu'il faut venir à Dieu. Il nous parle d'abord de la foi qui remporte des victoires. Et c'est la foi dont on aime bien entendre parler. Les guérisons, la prospérité, au point que certains groupes chrétiens mettent l'accent sur ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la foi, qui vous fait voir tous les bénéfices que vous pourriez avoir si vous vous engagez à suivre Dieu. Si vous êtes un vrai chrétien, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus de mort. Ils ont du mal avec ça. Mais là, on voit qu'il y a un aspect de la foi qui est une foi victorieuse. C'est la foi qui a permis la victoire à Jéricho et d'autres, dont on va parler un petit peu. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Vous vous souvenez que Josué avait pris la suite de Moïse et qu'il devait amener les Juifs en terre promise. Il avait fait une première démarche de foi, c'est lorsqu'il avait traversé le Jourdain alors que les eaux étaient en crue, mais il avait envoyé les prêtres et le Jourdain s'était arrêté, il avait pu rentrer. Et puis, le premier obstacle qu'il rencontre, c'est peut-être la cité la plus impressionnante de la terre de Canaan, la terre promise qu'il devait conquérir. C'était une cité fortifiée avec des murailles énormes. On a vu dans le verset précédent que les Égyptiens, sous la conduite de Moïse, avaient pu traverser la mer Rouge comme un terrain sec. Là, l'eau s'était transformée en mur. Là, on a des murailles qui vont se transformer en gravats. Dieu peut agir dans tous les sens, selon sa volonté, pour bénir ses enfants. Par la foi, les murailles de Jéricho, on dit que c'était si large, ces murailles étaient si larges qu'on pouvait faire passer deux chariots côte à côte sur le sommet de la muraille. Vous vous souvenez qu'à un moment d'incrédulité, Dieu avait permis à Moïse d'envoyer des espions en terre promise dans le livre des Nombres, et des questions de Josué et Caleb et de 10 autres espions qui sont rentrés en terre promise. Et les dix disaient « c'est impossible, leurs villes sont fortifiées, ils sont grands comme des géants costauds, on n'a pas une chance ». Il y en avait deux, Josué et Caleb, qui disaient « certes, il y a des difficultés, certes, on peut penser qu'on est comme des sauterelles par rapport à eux, mais avec notre Dieu, rien n'est impossible à notre Dieu, nous pouvons remporter la victoire ». Et Dieu avait puni l'incrédulité de la majorité en les laissant errer pendant 40 ans dans le désert. Et c'est finalement Josué qui a la charge de les faire rentrer. Et il avait une grande foi. Et il l'a démontré en suivant les plans que Dieu lui a donnés. C'était un militaire, il avait l'habitude de combattre avec des épées, des boucliers, des lances. Mais Dieu lui dit, voilà, non, tu vas pas attaquer avec des armes. Tu vas faire pendant 6 jours, tu vas faire le tour de la ville avec les prêtres d'abord, en louant Dieu, et tu vas faire le tour, et le 7e jour, vous allez encore vous réunir, vous allez faire 7 fois le tour de la ville, et là, vous allez crier de toutes vos forces. Ceux qui ont connu l'école du dimanche connaissent bien cette histoire. Yeah ! Dieu ! Et les murailles vont tomber. Nous, on a l'habitude, on connaît l'histoire, on trouve ça, ah oui, c'est Jéricho, il faut tourner autour, et pas de problème, mais il faut se remettre un peu dans la situation des gens de l'époque. Tu dis quoi ? On va faire le tour en priant, en louant Dieu, et puis le 7e jour, on va faire le tour 7 fois, et on va crier, ça va marcher, mais attends, il a peut-être pris un coup de soleil, notre Josué, là. Hein. Mais Josué persiste par la foi. Par la foi, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et par la foi, les murailles sont tombées. On peut se demander aussi ce que pensaient les gens qui étaient sur les murailles. Ils sont barjots. Ils sont fadas. Qu'est-ce qu'ils font là ? Et venez voir, ils tournent là en priant. Là. Et croient que ça nous fait peur ou quoi ? Non, c'était le plan de Dieu. Et on a dit, la foi, c'est une réaction positive à une révélation divine. Dieu avait révélé quelque chose, c'était son plan. C'est comme ça qu'il allait remporter la victoire, parce que dans ce cas-là, dans cette situation, lui seul retirerait de la gloire de cette victoire. Ce n'était pas la stratégie militaire du grand général Josué ou la force et la vaillance de ses officiers et soldats. Non, c'était Dieu qui pouvait retirer tout le crédit de cette victoire, par la foi. C'est intéressant aussi parce que Rahab, cette prostituée qui me faisait penser à Agnès, l'ami de Tony Campolo, elle était justement quelqu'un qui habitait Jéricho. Elle avait accueilli les espions. Les les soldats du pays de Canaan avaient su qu'il y avait des espions, et donc ils étaient sur leurs traces, ils essayaient de les trouver, et elle avait permis, en faisant descendre les espions par une corde à sa fenêtre, qu'elle habitait sur la muraille, justement, c'était grand, elle avait une grande maison sur la muraille, et elle leur avait dit, allez du côté de la montagne, cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient rentrés, après vous pourrez continuer votre chemin. Et les espions lui disent merci beaucoup et nous allons nous assurer, nous nous acquitterons d'un serment que nous te faisons, nous te protégerons toi, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs et tous leurs hommes et toutes leurs familles. Ils leur promettent de la sauver de la mort. En lui disant, voilà ce que tu feras, tu mettras un cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble avec toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. S'ils ne sont pas là, ils se font assassiner, ils se font tuer. Mais si vous êtes dans cette maison, vous serez sauvés. Une maison avec un cordon de fil rouge. Alors on peut penser que c'était peut-être une coïncidence, ou on peut peut-être penser que c'était un peu comme un rappel du sang de l'agneau qui était au-dessus de la maison des Juifs en Égypte, au sang de Jésus-Christ qui est sur nos têtes et qui fait que nous sommes préservés de la destruction à la fin des temps. Je crois que c'est ce fil rouge, c'est le fil de la rédemption, du rachat. C'est une très belle image dans la Bible. Certains parlent du fil rouge de la rédemption. C'était Rahab. Comment est-ce qu'elle avait agi en fait? Elle avait entendu parler des Juifs. Elle avait l'assurance que il y avait un grand Dieu qui aidait ce peuple juif. Elle leur avait dit, lorsqu'elle les avait fait monter sur les toits pour cacher les espions, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » En effet, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit s'est abattu devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Elle avait eu la foi. Comment est-ce qu'elle avait eu la foi? Elle avait eu la foi parce qu'elle avait entendu parler des exploits de Dieu à travers son peuple. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi, ce n'est pas une quantité, quelque chose de magique qu'on peut invoquer et qu'on a ou qu'on n'a pas, suivant qu'on est bien tombé ou pas. Non, la foi, ça vient en apprenant les choses de Dieu. Ça vient en lisant sa parole. Ça vient en écoutant des messages, en étudiant la parole, en participant à des études bibliques, en prenant un calendrier tous les jours, en ouvrant, parce que ça vous rappelle qui est Dieu. Alors, la foi, ça ne veut pas dire que c'est parce que l'information ne va pas faire de vous un chrétien, il y a toujours une réponse personnelle à donner. Elle disait que tous les habitants de Jéricho étaient effrayés, mais ça ne veut pas dire que pour autant tous étaient venus à la connaissance de Dieu. Ils n'avaient pas baissé le genou devant la révélation divine. La révélation avait été faite, mais il n'y avait pas eu la réponse positive à la foi. Et vous aussi, peut-être que vous avez entendu parler de ces choses, peut-être que vous êtes d'un arrière-plan chrétien. Tout petit, on vous a emmené au culte, c'est devenu une habitude, mais Dieu n'est pas la première de vos priorités, dans vos pensées, dans vos projets. Faites attention, peut-être que vous n'avez pas encore cette réponse positive qui dit « Oui, je vais baser ma vie sur Jésus-Christ, sur ce qu'il me dit, sur ce qu'il a révélé, sur la communion fraternelle avec ceux qui croient en lui. » Elle a eu la foi et c'est ce qui l'a sauvée. Elle n'est pas morte avec les non-croyants. C'était tous les autres. C'était ceux qui n'avaient pas, qui avaient entendu parler, mais qui n'avaient pas baissé le genou. C'était ceux qui n'avaient pas été convaincus, qui ne s'étaient pas laissés convaincre. Et cette conviction, en fait, elle vous appartient. Ce n'est pas votre grand-mère, votre maman qui peut vous forcer à répondre positivement à cette révélation divine. La clé, c'est vous-même, c'est votre cœur. Est-ce que moi, j'accepte de prendre Jésus, de suivre Jésus-Christ comme mon maître et comme mon sauveur? Donc, il y avait eu des promesses, il y avait eu des obstacles, et il y avait eu une victoire. C'est intéressant de remarquer que la place de Josué n'est pas prééminente là. Il n'est pas fait allusion à lui directement. Il dit qu'on a fait le tour, on a tourné autour des murailles de cette ville pendant 7 jours. Rahab, qui donc était une prostituée, elle est nommée par son nom. Et ça faisait probablement 40 ans, d'après le premier récit dans Josué 2, que les habitants avaient entendu parler des Israélites. Rahab avait cru, mis sa foi en Dieu. Les autres avaient cru les faits, mais n'avaient pas mis leur foi en Dieu. Et la question, c'était 40 ans, pourquoi il ne leur a pas donné 41 ans, 42 ans? Ça, c'est le mystère de Dieu, mais on peut imaginer que si au bout de 40 ans, on n'a pas répondu positivement à la révélation divine, il est peu probable qu'on le fasse avec 41 ans, 42 ans. Jacques nous dit que elle a été justifiée, déclarée juste par les œuvres pour avoir reçu les messagers, les avoir fait partir par un autre chemin. Ce n'est pas grâce à ses œuvres de prostituée, mais à son œuvre de foi, c'est par la foi. C'est intéressant, elle est devenue membre de la nation d'Israël, elle a épousé un dénommé Salma. Ils ont eu beaucoup d'enfants, dont un petit Boaz. Boaz qui a été donné naissance à Obed, qui a donné naissance à Isaïe, Jesse en anglais, qui était le père de David. Et finalement, elle est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ, où Jésus-Christ a accepté de s'incarner dans la race humaine avec une arrière-arrière-grand-mère prostituée. Jésus, il est du genre qui irait fêter la fête d'anniversaire à 3h30 du matin et offrir le salut à tous. On parle souvent des femmes de mauvaise vie. Elle est dans la généalogie de Jésus. L'humilité de Jésus. La proximité de Jésus avec tous les hommes, quelle que soit leur condition sociale, économique, morale même. Souvent, les non-croyants refusent d'aller plus loin dans leur foi avec Jésus-Christ en disant « Mais je ne connais pas la Bible. » Elle n'y connaissait pas grand-chose, elle avait simplement entendu parler d'un grand Dieu qui faisait que les Israélites remportaient des victoires sur leur chemin. Certains disent « Oh mais j'ai trop péché, si tu connaissais ma vie, je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu. » Elle était prostituée dans un pays connu pour l'immoralité excessive, des divinités obscènes, des sacrifices d'enfants. On a retrouvé dans les ruines de Jéricho des ossements d'enfants à l'intérieur d'amphores. C'était une façon de se débarrasser des enfants non voulus, résultant de prostitution sacrée, etc. Elle n'a pas hésité à faire le pas et aller à Jésus, à Dieu. Les gens disent « J'aimerais bien, mais mon mari ne croit pas, je ne peux pas venir. » Ou « Si je fais ça, ma famille ne comprendrait pas. » Au contraire, elle a eu le souci de sa famille et de ses parents. Et donc ça, c'est deux exemples de la foi qui conquiert, de la foi victorieuse. Il y a d'autres exemples, verset 32. Donc encore une fois, il dit, on n'a pas assez de temps pour raconter tous les miracles que Dieu a accomplis parce que ces gens avaient la foi en lui. Il nous parle de Gédéon. Ça, c'est des références aux juges, chapitre 6, 7 et 8. Il devait lutter contre les Madianites. Et Dieu l'avait interpellé en l'appelant un homme de grande valeur, alors que c'était un homme habité par la peur. Normalement, lorsqu'on battait le blé pour séparer le grain de l'entourage de la coquille, on allait en haut d'une colline, là où il y avait du vent, parce que le poids du grain faisait que on battait le blé, le grain retombait et le son léger s'envolait au vent. Là, il faisait ça, mais il faisait ça au creux d'une petite vallée. Et donc, quand il jetait les choses en l'air, ça lui retombait dessus. Et ce n'était pas un homme courageux. Mais Dieu l'a interpellé, il a répondu par la foi. Il avait à se battre contre les Madianites, qui étaient très nombreux, centaines de milliers dépassés. Lui, il avait 32 000 soldats. Et il s'était dit, ça va, on va peut-être y arriver avec l'aide de Dieu. Mais voilà que Dieu lui dit, tu vas rejeter tous ceux qui ont peur. Tu leur demandes s'il y en a qui ont peur et tu les laisses partir. Il se retrouve avec 10 000 soldats seulement. Et puis après, Dieu lui dit, non, s'il y en a encore trop, on pourrait penser que la victoire que vous allez remporter, c'est grâce à votre force militaire. Non. Tu vas les faire boire auprès de la rivière et tu vas regarder ceux qui boivent en prenant l'eau dans la main. Ceux-là, parce qu'ils restent sur le qui-vive alors que les autres lapent l'eau comme des chiens dans l'eau. Eux, ils se feront assassiner rapidement par des troupes. Ils sont pas méfiants. Et donc, ils se retrouvent avec 300 hommes seulement. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, qui ont la paix, c'est-à-dire ceux qui avaient pris l'eau dans leurs mains, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Là aussi, la logique était défiée. Il fallait avoir la foi en la puissance de Dieu et réagir positivement à cette révélation du plan de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Il y a eu une bataille où ils étaient quelques-uns, ils ont entouré le camp des Madianites, ils avaient mis dans des pots des bougies allumées, Et puis à un moment donné, ils ont cassé les poteries, les gens dans le camp ont vu les lumières briller, ils ont entendu des bruits, ils se sont entretués dans l'obscurité. Dieu a remporté une victoire. Dieu veut remporter des victoires dans notre vie. Il nous demande de la foi. Et c'est pas toujours facile de faire la différence entre la stupidité et la foi. On a parlé vendredi soir des finances de l'Église. Et on s'est dit, c'est vrai, en fait, on devrait en parler plus souvent, dire qu'on a des besoins. Il y a même des églises où on fait des tableaux, il faut acheter un nouvel équipement, on fait une liste des dons, et puis on voit comment ça monte. Alors, c'est pas mauvais en soi, mais sans avoir jamais eu à faire cela, on a tenu les gens au courant et peut-être on doit le faire davantage. Dieu a pourvu de façon miraculeuse par des dons. Et on se dit, est-ce qu'on n'est pas raisonnable? On devrait peut-être parler davantage de ces problèmes qu'on peut avoir financièrement, ou bien on fait confiance à Dieu. Mais Dieu se glorifie lorsque ce n'est pas nos plans. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il faille jeter le bon sens à la poubelle et dire qu'on va vivre par la foi, mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui nous permet pas de nous éloigner de Dieu. Parce que quand on est sur le fil comme ça, on est obligé d'avoir une relation proche avec lui. On prie, on a peur, on lui demande. Et peut-être qu'il va nous dire, mais parlez-en un peu à l'Église. Mais je dis cela pour pas que vous pensiez qu'on parle de choses qui sont passées, dépassées depuis 2500 ans, 2016 ans, 3000 ans. Non, nous pouvons être des héros de la foi si nous écoutons Dieu, si nous entendons ce qu'il nous dit et si nous agissons en fonction de cela. Il parle d'un autre homme, Barak, dont il est fait mention dans Juge 4. C'était aussi lui un juge. Son nom signifie l'éclair, Barack Obama. Non, comment il... Ça, c'est un autre éclair. Et lui, il avait besoin d'encouragement. Il devait se battre contre un ennemi qui avait des chariots de fer. Et il était allé voir une prophétesse, Déborah. Il lui a dit, je ne vais pas au combat si tu ne viens pas avec nous. Et donc là, il a reconnu qu'il avait besoin d'une femme. Elle a reçu une certaine gloire. Et lui, en fait, il est nommé ici comme un des héros de la foi. Et pourtant, sa foi, elle n'était pas si belle que ça. Là aussi, je veux détruire ce mythe que tous ces gens avaient une foi parfaite. Une foi glorieuse, qu'ils étaient sans péché, sans faute. Ce qui compte dans la foi, ce n'est pas la quantité qu'on a, c'est ce qu'on fait avec le peu qu'on a. Parce que ce qui compte, c'est la grandeur en qui on met la foi, la grandeur de notre Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous méditez de temps en temps un peu sur la puissance de Dieu ? Devant nos situations, devant nos obstacles, devant nos échecs, devant nos peurs, devant nos décès, devant nos deuils, devant nos chagrins, devant le chômage, devant les meurtres des djihadistes, est-ce que vous pensez un peu à Dieu et à combien il vous aime et à combien il est puissant? On parle après de Samson, lui c'était aussi un autre juge. Son nom voulait dire pareil au soleil. Lui, il avait un problème avec les femmes. C'est un coureur de jupons, mais il a fait preuve de foi contre les Philistins. Dieu a pu l'utiliser et le glorifier et le mettre son nom dans la liste. Jephté, c'était un autre juge. c'était le fils d'une prostituée. Les prostituées, la Bible n'est pas un livre qui ne parle pas des choses réelles. C'est un livre qui est basé dans l'humanité profonde, dans les péchés, les aspirations, les saluts. C'est un livre réel. Jephté, il avait promis à Dieu, si Dieu lui donnait la victoire contre Sion, d'offrir la première chose qui sortirait de sa maison. Et là, à son grand effroi, c'est sa fille qui est sortie. La première chose qu'il a vue après que Dieu lui donne la victoire, il a dû donner sa fille en sacrifice. Alors là, le Lévitique interdisait les sacrifices humains et on pense que ce sacrifice était de la consacrer à Dieu et pour ainsi dire, il l'avait mise dans un couvent pour ne jamais avoir de famille. David, son combat contre Goliath, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Ce petit berger qui, avec quelques pierres, a tué ce géant de Philistins qui paralysait toutes les troupes d'Israël. Là encore, c'était une question de perspective. Il regardait à la puissance de Dieu et non pas à la hauteur de l'obstacle. Il parle des femmes qui ont retrouvé leur mort par la résurrection. On connaît les passages dans 1 roi 17 ou 2 rois 4 avec Élisée ou avec Élie, des femmes qui ont... Élie dit « Voici ton fils est vivant ». Élisée qui dit à la Tsunamite « Prends ton fils qui est vivant ». Et donc on voit tous ces exemples de foi qui de victoire. Et c'est très bien. Mais la foi, ce n'est pas seulement garantie de victoire. Le reste, à partir du verset de la deuxième moitié du verset 35, c'est une foi qui souffre, c'est une foi qui persévère. D'autres, du même genre, d'autres par opposition plutôt, furent torturés. Le mot veut dire qu'ils ont subi le supplice de la roue, où on vous attache sur une roue et on vous frappe les membres à coups de bâton ou de marteau. Ils n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, tués par l'épée. Ils vivaient dans la plus grande, la plus abjecte des pauvretés, dénués de tout. Ceux-là aussi avaient la foi. Ils avaient la foi pour persévérer parce qu'ils fixaient leurs yeux sur celui qui est invisible. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons des frères et sœurs de par le monde qui subissent ce genre de persécution. Récemment, en Égypte, une vingtaine ou plus de chrétiens coptes ont été assassinés par des djihadistes. On raconte qu'ils faisaient sortir du bus et qu'ils leur demandaient s'ils voulaient renier Jésus ou pas. Et ils leur coupaient la tête s'ils ne refusaient. Eux dont le monde n'était pas digne. C'est intéressant qu'on a eu un attentat à Londres. C'est terrible. Et nos prières vont vers les familles et de ces personnes. Mais il y a eu 8 morts. Les médias, le monde en a parlé. Et puis il y a 20 coptes un jour, 20 chrétiens qui sont assassinés. Un petit entrefilet, le monde n'en parle pas. Le monde ne veut pas savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à se faire trancher la gorge plutôt que de refuser de renier le nom de Jésus-Christ. Ils étaient des héros de la foi. C'est une foi qui... on pourra dire une foi de perdante, mais c'est une foi tout autant. C'est pour ça que la doctrine de la foi qui vous dit que si vous croyez en Dieu, il va vous arriver rien de douloureux ou de mal, c'est une hérésie, c'est pas la réalité. Et c'est vrai qu'on aime bien entendre parler des moments où la foi est victorieuse, mais la foi où il n'y a pas de guérison du cancer, la foi où il n'y a pas de retour à la vie d'une personne assassinée, c'est aussi une foi qui plaît à Dieu. Et elle n'est pas plus grande ou plus petite, c'est de faire confiance, de vous dire qu'il y a il n'y a pas de quoi renoncer à lui. Et on n'est pas. On a une victoire ultime qui nous est promise, mais ici-bas, on ne sait pas ce que ça peut recouvrir. Jean nous disait, dans Jean 16, 33, c'est Jésus qui disait : dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. C'est pas si vous vous trouvez au mauvais endroit, au mauvais moment, nous allons tous passer par des difficultés, des tribulations, des épreuves. Prenons courage, parce que lui a vaincu le monde. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. 2 Timothée 3:12. Si je suis bien avec tout le monde, si personne ne parle dans mon don, c'est peut-être que je ne suis pas assez vocal pour ma foi. Peut-être que j'ai jamais dit à mes collègues que je dimanche matin, j'étais pas à la plage, j'étais au culte. Mais on a les promesses, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel le délivre. Le psaume 34. Ils affermissaient. Dans le livre des Actes 14, 22, il est dit que les apôtres affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient : c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Dieu ne délivre pas dans tous les cas. Il faut que ce soit clair dans nos esprits. On peut toujours lui demander la délivrance de la maladie, d'un accident, de la mort, et Dieu répond, mais sachons que s'il ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il a cessé de nous aimer, c'est qu'il a, d'une façon ultime, un meilleur plan pour nous. Je parlais de ce héros de la foi pour moi, Mike Messi, missionnaire au Népal, qui est parti. On pensait que sa femme, d'une crise cardiaque, on pensait que sa femme, qui est gravement malade d'un cancer, le précéderait de nombreuses années. Il est allé en fait la précéder. Et je crois que c'est, je ne sais pas trop comment ça se passe là-haut, qui sera là pour l'accueillir. Mais c'est important de ne pas rejeter la foi, de ne pas rejeter, Christ, parce que il ne répond pas toujours comme on le souhaiterait. La persécution systématique des chrétiens, c'est une réalité dans beaucoup de pays, et souvent dans ces pays-là, la foi est vibrante, l'évangélisation avance à grands pas, parce que la foi dans l'adversité, elle est plus forte que la foi dans la prospérité. On a l'impression que Christ est perdant, mais c'est là qu'il remporte les plus grandes victoires. Versets 39 et 40, on termine avec ça. Tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Mais Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Il s'inclut. Nous aussi, on a quelque chose de meilleur. Notre destination finale, c'est pas la Riviera à Nice. C'est la maison céleste. C'est la vie dans l'éternité avec Jésus. Paul disait : j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Tout est question de perspective. Votre foi, elle va devenir une foi forte si vous la prenez au mot. Si elle reste une foi théorique, mais si lorsque vous entendiez Dieu vous parler, je veux que tu ailles faire une école biblique, je veux que tu partes dans ce voyage missionnaire pour quelques mois, je veux que tu envisages de servir Dieu à plein temps, ou je veux que tu aies une famille nombreuse et que tous tes enfants connaissent le Seigneur très tôt. Des héros de la foi, pour moi, c'est un couple que nous avions connu en école biblique au Canada. Ils arrivaient là avec 8 enfants. Et ils se préparaient à être missionnaires en Chine. Ils sont partis en Chine avec leurs 8 enfants. Mais ce qui était remarquable, c'est qu'en fait, ils expliquaient, on part là-bas, pas pour que nous, moi et ma femme, nous puissions convertir les Chinois. Mais on veut que nos enfants soient complètement à l'aise dans la culture, dans la langue, et que ce soit eux qui touchent un continent pour Jésus. Et ces enfants sont maintenant des missionnaires. Et ça, c'est la foi. On ne voit pas le résultat. Je ne sais pas trop où ils en sont, mais Dieu vous invite à la foi qui est une réponse positive à sa révélation. Amen. Amen.